Chapitre 5. Aventure survenue à M. Flottard, rôtisseur à Pontoise. M. Flottard était rôtisseur à Pontoise. Ce n'était pas le premier rôtisseur venu, c'était un rôtisseur littéraire. Il avait commencé par être plongeur chez Salis, du temps que ce fameux gentilhomme cabaretier faisait les beaux jours au Chat Noir de la rue de Laval, devenue rue Victor Massé. C'est là qu'il avait pris le goût des belles lettres et qu'il avait compris comment un homme intelligent dans le commerce de la limonade ou de la restauration peut donner du prix à sa marchandise en mettant un peu d'art autour. Il ne s'agit que de trouver un genre. M. Flottard avait un petit filet de voix. Il choisit le genre chansonnier. Et comme, du temps du grand patron et de l'épopée de Carandache, on lui avait inculqué l'amour de Napoléon, il devint bonapartiste. La conclusion de tout ceci est que, depuis 15 ans, un touriste qui est au courant des choses de la vie et qui passe par Pontoise à l'heure du déjeuner ne manquera point de s'arrêter à la rôtisserie du bonhomme Flottard qui vous chante au dessert si joliment les chansons de Béranger. Périsse enfin le géant des batailles, disaient les rois, peuple accourait tous, ou encore le vieux caporal. Mais pour nous sous, jeunes soldats, j'ai des impairs à l'exercice. Conscrits au pas, ne pleurez pas, ne pleurez pas, marchez au pas, au pas, au pas, au pas. Et je vous prie de croire que lorsque le client le moins décidé a réglé d'emblée une addition un peu salée, a entendu M. Flottard faire le vieux caporal, il rentre vite sa protestation et sort tôt sa galette. Il ne tient pas à se faire mettre au pas, lui aussi. M. Flottard a ouvert sa rôtisserie à la descente de Pontoise, et quoique tout y soit à la gloire de Napoléon, la grande salle, avec son immense cheminée où tournent les broches, n'en a pas moins, avec ses boiseries gothiques, le cachet moyenâgeux qui convient à l'établissement d'un gentilhomme cabaretier. Sur la cheminée, il y a un Napoléon en plâtre. Les murs sont ornés de lithos représentant la veille d'Austerlitz, la reddition d'Ulm, la mort de Poniatowski, le martyr de Sainte-Hélène et l'apothéose des vieux braves. N'ayant pu trouver le buste de Béranger, il a acheté un plâtre extraordinaire, représentant un vieux druide à barbe de fleuve et jouant de la harpe. Il a gravé sur le socle, avec son couteau à couper le cou au poulet, Béranger, et il l'a placé à l'entrée des tonnelles. Ce pauvre Béranger, ce matin, était bien abandonné. Tandis que les derniers glaçons dont la nuit l'avait revêtu fondaient autour de lui, M. Flottard, bien au chaud devant sa cheminée, déjà flambante, faisait admirer à Mme Flottard un magnifique couteau de cuisine tout neuf, large à la base et pointu comme une aiguille au sommet, bien emmanché, bien affilé, solide et souple, à la fois comme un jonc, un spécimen de la grande coutellerie, quoi. Un couteau qui était plus qu'un couteau et moins qu'un coutelas, et qui avait peut-être valu une médaille d'or au client de Châtellerault, qui venait de l'envoyer par colis au père Flottard, en matière de gentillesse et de reconnaissance du ventre. Et on parle de la coutellerie anglaise, fit notre homme. Qu'en pensez-vous, Madame Flottard ? « Je pense qu'on a tort, » répliqua la bonne femme qui tricotait des bas derrière son comptoir, la poitrine confortablement enveloppée dans un épais châle de laine. « Qu'on a tort de quoi ? » ?»« Madame Flottard est humble et soumise. Jamais elle n'élève la voix devant son époux. Elle est toujours de son avis. Elle ne lui parle qu'avec crainte et respect, ce qui est bien exaspérant pour un homme qui ne demande qu'à la disputer. Cet antagonisme latent qui n'a point l'occasion de se manifester, occasion que M. Flotard saisirait avec d'autant plus d'empressement qu'il a le sentiment que son humeur en serait une fois pour toutes soulagée, a pris naissance, où il y a bien des années de cela, dans la sorte d'indifférence apathique avec laquelle Mme Flotard a toujours entendu chanter M. Flotard. M. Flotard ne cherche point de compliments, mais il les aime. Et Mme Flotard est peut-être la seule personne qui ne soit pas extasiée devant son petit filet de voix. Tu trouves peut-être que je chante faux ? A-t-il fini par lui demander un jour. Mme Flotard a protesté doucement. En tout cas, si elle pense une chose pareille, elle a bien fait de ne point l'exprimer, et ce n'est certes pas dans ce moment où M. Flotard joue avec un si beau spécimen de l'industrie de Châtellerault, tout en chantonnant entre ses dents. Oui, je secourais la poussière, qu'elle commettra l'imprudence de lui faire entendre que depuis 15 ans qu'elle est condamnée à la subir, la muse de Béranger lui donne des nausées. Et elle a tout à fait raison de se tenir sur ses gardes, la brave dame, car jamais M. Flotard n'a été aussi énervé. Depuis 2 jours, elle n'a pas vu un client. « Homme noir, d'où sortez-vous? Quel temps de chien! Reine du monde, ô France, ô ma patrie, soulève enfin ton front cicatrisé !» Ce n'est pas qu'il ne passe point d'auto, mais elle ne s'arrête pas. M. Flotard sait bien où elle s'arrête. Un concurrent, depuis l'été dernier, s'est installé un peu plus loin dans la campagne, sur les bords de la rivière. « Suis-moi et sois-moi fidèle, ô pauvre ami que j'aime. Chez ce confrère à l'amant qu'on ne chante pas, on danse. » Il y a une boîte à musique qui distribue aux clients les tangos et les chimies. Le progrès, quoi, leur progrès. Bon Dieu. Société, vieux et sombre édifice. Ah ! Une auto qui s'arrête. Une auto qui s'arrête. Oh, pas une auto de luxe, bien sûr. Une pauvre petite auto à conduite intérieure. Derrière ses rideaux, M. Flotard guette le client comme un brigand des Calabres, derrière ses roches guette le voyageur. La portière s'ouvre. Qu'est-ce que ce client-là? Et dans ce court espace, très court espace de temps, pendant lequel la portière de la voiture est ouverte, le rôtisseur a vu, enfin a cru voir, une forme féminine étendue, des cheveux épars, une figure de morte, du sang. Mais la portière, dont le rideau de vitre est tiré, a claqué tout de suite derrière le voyageur. Un singulier bonhomme, au masque immobile, aux yeux pas commodes, vêtu d'un méchant paletot au col garni de faux astrakhan, la tête couverte d'une toque de fausses loutres pelées miteuses, calamiteuses. Drôle de client. Monsieur Flotard ne sait s'il doit lui ouvrir la porte ou se barricader. Mais l'autre a pénétré dans la salle avec une décision troublante et il glisse sous le nez de Monsieur Flotard une espèce de billet qu'il tenait tout près dans le creux de sa main et sur lequel le rôtisseur lit « Avez-vous une couverture de voyage ?» « Monsieur, lui répond plus énervé que jamais d'une telle entrée en matière, le chantre de Béranger, « Monsieur, nous ne sommes pas ici aux galeries La Feuillette. » Sans plus se préoccuper du rôtisseur que s'il n'existait pas, le client se dirige droit sur la rôtisseuse. Profitant de ce que la porte est ouverte, M. Flotard, qui a l'esprit préoccupé par la vision entreaperçue, se glisse jusqu'à l'auto, ouvre rapidement la portière, la referme avec une sourde exclamation d'horreur et revient en hâte jusque dans sa rôtisserie pour entendre Madame Flottard pousser un cri d'épouvante. D'une main brutale, le voyageur est en train de lui arracher le châle de laine qui enveloppe si confortablement le buste de la frileuse cabaretière, et de l'autre, il la menace d'un revolver braqué à bout portant. Oh, c'en est trop pour le rôtisseur, qui dispose justement d'un solide couteau de Châtellerault tout neuf, un couteau qui n'a pas servi. Certes, Monsieur Flottard ne pensait pas l'essayer sur un hôte qui n'appartenait point à sa basse-cour, mais on ne choisit pas toujours les occasions. Souvent, comme on dit, elle vous force la main. Et en vérité, ce n'était pas une raison, parce que Madame Flottard n'appréciait point à sa juste valeur le talent chansonnier de son époux pour que celui-ci la laissât assassiner sous ses yeux, sans protester. Il protesta donc avec son couteau et le planta jusqu'au manche dans le dos de ce redoutable et trop énigmatique personnage qui promenait dans sa voiture une jeune personne à demi morte et qui prenait son cabaret littéraire pour un magasin de nouveautés. Oui, jusqu'au manche. Et c'est le cas de dire que ce couteau est entré dans le dos de ce monsieur comme dans du beurre. Jusqu'au manche, ceci nous ne saurions trop le répéter, car événement extraordinaire, inouï, étourdissant, extravagant, fabuleux, phénoménal, pyramidal, sans égal, le monsieur n'a pas l'air de s'en apercevoir. Il ne s'est même pas retourné, et s'étant approprié le châle, mais ne voulant sans doute point passer auprès de bonhomme Flottard pour un vulgaire cambrioleur, il lui tend un billet de 1 000 francs dont il attend tranquillement la monnaie. Cependant, comme Madame Flottard, dans un désarroi bien compréhensible, ne paraît point pressée de lui rendre cette monnaie qu'il attend, et comme il est pressé, lui, de partir, il replace son billet dans son portefeuille, traverse la salle, quitte la rôtisserie en passant de Monsieur Flottard pétrifié, et remonte dans son auto, toujours avec son couteau dans le dos. Chapitre 6. Une nouvelle qui répand la terreur. Ah, c'est fini pour quelque temps de chanter les chansons de Béranger. Pauvre Monsieur Flottard. Adieu l'amour, l'amitié, le vin qui nargue toute étiquette, tu hurlerettes la dorite. Adieu le joyeux tournebroche, du moins pour aujourd'hui. Le tournebroche, oh, Monsieur Flottard ne pense qu'à son couteau, et Madame Flottard donc, quel drame. D'autres diront qu'avec un énergumène pareil, ils l'ont échappé belle. Oui, mais il y a une chose à laquelle ils n'ont pas échappé, c'est à la vision de cet homme qui se promène tranquillement avec un couteau dans le dos. Cette vision-là les poursuivra longtemps. « Mais quand tu l'as frappé, soupira Madame Flottard, j'ai cru qu'il allait tomber foudroyé. » Monsieur Flottard ne répond pas, car c'est lui qui est foudroyé. Le feu du ciel, venant soudain le visiter en un jour d'orage, ne l'eut pas momentanément, plus singulièrement immobilisé contre le mur qui l'empêche de choir, que la surprise d'un tel événement de la figer dans une grimace qui prêterait à rire si elle ne donnait à Madame Flottard envie de pleurer. Celle-ci a encore la force de murmurer des choses confuses, car ce qui domine en elle, c'est le sentiment d'avoir été débarrassée d'un danger pressant par le geste héroïque d'un époux. Si le bandit n'y a point succombé, elle peut s'imaginer que la main de M. Flottard à l'instant suprême a tremblé, ou quelque chose d'approchant, enfin que le couteau a frappé de travers, par exemple, et est resté accroché dans la fourrure du paletot, dont l'épaisseur aurait si bien amorti le choc que le voleur de châle ne s'en serait même pas aperçu. Oui, Madame Flottard, elle peut s'imaginer tout, excepté la vérité. Mais celui qui a accompli le geste, lui, il sait. Il sait que son couteau est entré dans l'homme comme dans du beurre, jusqu'au manche, et que l'homme ne s'en est même pas plus préoccupé que d'une piqûre de moustique. Là-dessus est entré M. Durantin, maraîcher, qu'a suivi de près le petit Gustave, clerc d'huissier, qui venait prendre l'apéritif chez le bonhomme Flottard, où il avait donné rendez-vous à son ami Elias, potard chez M. Arago, pharmacien, et l'ami Elias lui-même n'a pas tardé à arriver. Enfin, est survenu le joyeux père Canard, plus ou moins ouvrier électricien, vitrier, cireur de parquet, peintre d'enseigne, enfin l'homme à tout faire, c'est-à-dire passant le plus souvent son temps à ne rien faire du tout qu'à blaguer et à se faire offrir des tournées sur les comptoirs. On pense ce que pouvait devenir avec un homme pareil l'histoire du couteau tout neuf de Châtellerault qu'un voyageur venait d'emporter dans son dos, planté jusqu'au manche. Les premiers arrivés avaient été réellement effrayés de l'état dans lequel ils avaient trouvé M. et Mme Flottard, et le peu qu'ils avaient compris dans quelques mots arrachés à leur émoi avait augmenté chez eux la conviction que le gentilhomme cabaretier et son épouse venaient d'échapper à un malheur épouvantable. Mais quand, pressé par le père Canard, qui ne demandait comme toujours qu'à rigoler, M. Flottard, retrouvant enfin son souffle et le cours de ses idées, eut quelque peu précisé les conditions exceptionnelles de l'incroyable aventure, l'homme à tout faire, hein, je vous prie de le croire, se paya une pinte de bon sang. Alors on commença à se dérider autour de lui, et pendant que M. et Mme Flottard continuaient à montrer leur figure de croque-mort, le petit Gustave, l'ami Elias, les trois domestiques accourus au bruit des escaffements, firent chorus avec le joyeux farceur. Quant à M. Durantin, maraîcher qui prend tout au sérieux, il était déjà sorti, répandant le bruit dans Pontoise, qu'on avait voulu assassiner M. et Mme Flottard, qu'il en valait guère mieux. Un quart d'heure plus tard, il y avait 200 personnes devant la rôtisserie. C'est à ce moment qu'un autotaxi venant de Paris, à toute allure, s'arrêta net devant cet encombrement et ce tumulte. Deux voyageurs en sortirent, demandant en hâte des explications. Ces deux voyageurs étaient le vieux Norbert et Jacques Cotentin. Nous avons laissé ceci avec M. Lavieuville. Usant de quelques vagues renseignements que l'honorable Marguillier avait pu leur communiquer, et sachant que Gabriel avait dirigé la petite auto à conduite intérieure du côté du pont Sully, il s'était dirigé rapidement de ce côté, était remonté sur la rive gauche, avait bientôt acquis la preuve que celui qu'il voulait joindre s'était arrêté au coin de la rue du Cardinal-Lemoine et du boulevard Saint-Germain, devant un garage qui venait d'ouvrir et où il avait demandé par écrit si l'on pouvait lui vendre ou lui montrer une carte routière de Seine-et-Oise. C'était un muet, certainement, n'est-ce pas, messieurs? Il paraissait bien pressé. Un drôle d'individu. On ne voyait que le bout de son nez sous la casquette qu'il emmitouflait. Son col de par-dessus relevé. Parole, il avait l'air de se cacher. Il tournait tout le temps la tête. Enfin, il a aperçu cette carte, tenez-la contre le mur. Il y est allé. Il l'a regardée quelques secondes. Son doigt a suivi la route de Conflans, Pontoise et l'Isle-Adam. Et puis il est reparti, sans même donner un sou de pourboire. Norbert et Jacques, qui avaient eu l'idée de prendre une auto dans ce garage, voyant qu'ils perdraient encore là un quart d'heure, sautèrent dans un taxi qui passait, promirent au chauffeur un pourboire fabuleux et sortirent de Paris par Asnières. À Argenteuil, ils retrouvèrent la trace de Gabriel et de son auto, à Conflans également, et puis entre Conflans et Pontoise, ils perdirent cette trace. Gabriel avait dû certainement abandonner la grande route. Ils perdirent un temps précieux, près de 2 heures, à battre tous les environs. Enfin, dans le moment qu'ils désespéraient de tout, ils retrouvèrent la piste et acquirent même la certitude qu'ils ne suivaient pas de loin Gabriel, lequel avait dû subir une panne en plein champ, pensèrent-ils. Et ils se retrouvèrent sur la route de Pontoise, que Gabriel avait reprise avec au plus 20 minutes d'avance sur eux. À la descente de Pontoise, ils se heurtaient à cette agglomération que nous avons dit et sautaient de la voiture avec le pressentiment qu'ils allaient entendre parler de Gabriel. Oh, il ne leur fallut pas de longues minutes pour apprendre que celui qu'ils cherchaient s'était en effet arrêté là. L'histoire de l'attentat et surtout du couteau planté dans le dos du monsieur qui n'avait pas eu l'air de s'en apercevoir acheva de les éclairer. « C'est lui !» fit Jacques à l'oreille du vieux Norbert. « Par ce froid, Christine doit être glacée et lui n'ose pas enlever son pardessus à cause de son costume qui ne serait passé inaperçu. Il a volé ce châle pour elle !» « Pauvre Christine, je suis un misérable. »« Oh, oui, acquiesça le vieux Norbert. Allez, en route !» Ils remontèrent dans le taxi, pendant que les discussions continuaient à propos de l'événement, que les uns prenaient au sérieux et à propos duquel d'autres s'esclaffaient. Ils entendirent au moment où ils démarraient le père Canard qui criait en rigolant au gentilhomme cabaretier. Hey, « Hé, flottard, ça t'apprendra une autre fois pas laisser le couteau dans la plaie, sans que t'aies que ça de bien le gêner, ton client, pour ôter son par-dessus. » Norbert et Jacques comptaient retrouver Gabriel entre Pontoise et l'Isle-Adam. Mais la petite auto n'avait pas été vue là. Ils durent revenir et prendre la route qui longe la Vionne. Par là non plus aucune trace. Et ils n'en retrouvèrent plus. Nous ne dirons point le détail de leurs inutiles recherches pendant les jours qui suivirent, ni l'état d'esprit lamentable dans lequel ils se trouvaient. Ceci, nous le verrons prochainement. Ils venaient de rentrer, accablés par le désespoir, dans la boutique de la rue du Saint-Sacrement, quand des camelots commencèrent à courir les rues en vendant des éditions spéciales des journaux du soir. Ils criaient les titres des manchettes. « Les crimes de Corbière continuent. Deux nouvelles victimes. »« Oh, c'est lui !» s'écria l'horloger en se dressant comme un fou devant Jacques. « Il est retourné à Corbière. » Chapitre 7. Un singulier pensionnaire. Voici en résumé ce que narraient les feuilles publiques. Depuis quelques jours, il s'était passé à Corbillière et aussi dans les bureaux de la Sûreté des événements que l'on s'était efforcé autant que possible de tenir cachés, car ils avaient cette gravité exceptionnelle de faire revivre une affaire que l'on croyait bien avoir enterrée avec le coupable. Une jeune servante, arrivée récemment à l'auberge de l'Arbre Vert, avait disparu certains soirs, et avait été retrouvé, certain autre soir, dans le limon d'un marécage de Corbillière, étranglé, comme avait été étranglé le père Violette, portant encore au cou la trace du fin lasso avec lequel on avait fait passer la pauvre enfant, où la petite Mariette avait 18 ans, de vie à trépas. La trace de ce lasso n'avaient pu être relevés sur les restes de la petite Annie qui avait été trop charcutée ou qui était déjà consumée lors de la première découverte de l'horrible tragédie de Corbillière. Mais, 2 jours après la disparition de la jeune Mariette, une jeune veuve qui vivait seule depuis la mort de son mari dans une maisonnette des environs avait été trouvée dans son cellier, étranglée elle aussi, et de la même manière. Ces événements avaient jeté, comme on le pense bien, dans un désarroi complet la police et le parquet. De tels faits ne tendaient à rien de moins qu'à établir l'innocence d'un homme que l'on venait de guillotiner. Les premières enquêtes avaient été conduites dans le plus grand mystère, mais le secret dont on voulait les entourer ne résista pas à la rumeur grandissante et surtout à la vague de terreur qui submergea à nouveau toute la contrée environnante. Les reporters, depuis 48 heures, s'étaient mis à la besogne. Pendant que les uns parcouraient le pays, les autres assiégeaient les bureaux de la Sûreté Générale. Et la terrible nouvelle, terrible pour la justice, éclatait comme une bombe. Bénédicte Masson était innocent. Oh, la justice et la police allaient passer de mauvais jours. Un reporter du journal L'Époque parvint à interviewer le garde des Sceaux, qui ne put se dérober aux questions pressantes que lui posait par la bouche de ce journaliste l'opinion publique. Et il fournit le dernier argument que lui avait soufflé une police aux abois. Sans aucun doute, des crimes avaient été commis depuis l'exécution de Bénédicte Masson, qui rappelait singulièrement la mort tragique du père Violette. Mais en admettant même que Bénédicte Masson fût innocent de ce crime-là, il n'en restait pas moins coupable de l'assassinat de la petite Annie, sur laquelle on n'avait pas relevé les traces du genre d'assassinat pratiqué pour les autres. À quoi le reporter avait répliqué qu'on n'avait rien relevé sur la petite Annie et que cet argument péchait en cela même par sa base. Le garde des Sceaux n'avait pu ajouter qu'une chose, c'est que le témoignage de Christine Norbert ne laissait rien à désirer quant à la culpabilité de Bénédicte Masson. Ce ne fut point l'avis de l'opinion publique qui est toujours simpliste et qui se résuma ainsi. On avait guillotiné Bénédicte Masson pour des crimes qui continuaient et l'on rappelait qu'il avait crié jusque sous le couteau de la guillotine « Je suis innocent !» C'est sur ces entrefaites que le vieux Norbert et Jacques Cotentin arrivèrent à l'Arbre Vert. Ils ne connaissaient point le pays, on ne les connaissait pas. La mère Muche les accueillit avec le sourire. Nous avons dit précisément que Madame Muche avait retrouvé toute sa bonne humeur naturelle depuis la mort de son mari. Il n'y avait certes pas, dans les derniers événements, de quoi transformer cette bonne humeur en tristesse. Certes, elle avait été peinée, car elle avait bon cœur, de la fin prématurée de sa servante, mais celle-ci était depuis trop peu de temps à l'Arbre Vert pour que sa patronne eût pu concevoir pour elle des sentiments d'amitié ou même un simple attachement, et comme, à la suite de ce mystérieux trépas, l'auberge ne désemplissait plus, Madame Muche en eut bientôt oublié la cruauté pour ne plus voir que ce qui lui rapportait. La saison d'hiver était d'ordinaire à peu près nulle à l'Arbre Vert. Or, jamais Madame Muche n'avait fait de meilleures affaires. La police, la justice, les journalistes étaient devenus ses clients habituels et lui faisaient une réclame qui attirait chez elle tout le département. Le dimanche, on venait même de Paris, en partie fine. Le soir, l'auberge se vidait, chacun rentrant chez soi, et les journalistes courant à leur rédaction. C'est le soir que survinrent l'horloger et son neveu. Ils demandèrent à souper et 2 chambres. Avant de venir échouer à l'Arbre Vert, ils avaient passé par Corbillère où ils étaient descendus du train. Là, ils avaient posé d'adroites questions, mais rien dans les réponses ne pouvait les inciter à croire que Gabriel fût venu dans le pays. Le paletot de fourrure garni de faux astrakhan et la casquette de loutre y étaient inconnus. Les deux hommes étaient descendus ensuite dans la solitude désolée du marécage. Ils étaient arrivés sur les bords du petit étang aux eaux de plomb. Et ils savaient que le pavillon abandonné qui dressait son ombre lugubre devant eux était la sinistre demeure dont on avait tant parlé. Il paraissait clos comme une tombe. Tout y était fermé, barricadé. Visage de bois, visage de brique, visage de glace sous son épais voile d'hiver, spectacle qui donnait le frisson. Ils en firent le tour en proie aux pensées les plus sombres. Là, Christine avait poussé son premier cri de détresse. Où était-elle maintenant, Christine? Et maintenant, ils étaient en face de leur soupe dans la salle basse et ils faisaient bavarder l'hôtelière, chose qui n'était point difficile. Elle avait acquis de l'importance depuis la dernière affaire. Celle-ci la remettait au premier plan, et sa photographie avait paru dans les journaux. Elle n'en était pas plus fière pour cela, mais elle était contente d'elle et de tout le monde, et pleine de bonne volonté pour le client. Elle non plus, elle n'avait vu personne qui ressemblât à celui dont ces messieurs lui faisaient la description. Pensez donc qu'elle l'aurait bien remarqué. Un homme avec une casquette de loutre, un paletot garni de faux astrakhan et des bottes à revers. Et elle le laissa là. Je vous demande pardon, on me réclame en haut dans le cabinet particulier. Vous savez, ces messieurs sont exigeants. Des gens de là-haut, des lords et des sœurs et des anglais, amis de la Durga, qui ne pouvaient pas souffrir la cuisine des deux colombes. Pareil qu'on leur donne à manger que du riz là-bas. Quand elle fut partie, l'horloger poussa un soupir d'enfant. Non, personne ne l'avait vu dans le pays. Ah, si ça pouvait ne pas être lui. Mon oncle, soupira à son tour Jacques Cotentin, si je n'avais pas cet espoir-là, il y a beau longtemps que je me serais fait justice. Vous pensez bien que la seule raison de ma conduite réside en ceci, que j'ai toujours cru, Bénédicte Masson innocent. Alors vous comprenez, s'il avait pu prouver lui-même son innocence. Après sa mort. Mais tais-toi, tais-toi, je comprends le... Je comprends trop, mais Christine, oh, mais qu'avons-nous fait, mais qu'avons-nous fait, mon Jacques ? Et le vieil horloger se prit à pleurer. Vois-tu, Jacques, nous sommes maudits, il n'est pas permis à l'homme de faire revivre ce qui est mort. Mais alors, mon oncle, marchons comme les animaux, les yeux éternellement fixés sur la terre, et broutons. Mais depuis le jour où un front s'est tourné vers le ciel, vers la lumière, vers la vie. J'estime qu'il n'a plus le droit de retourner à son limon. Toujours plus haut, ô créature, vers ton créateur, toutes les religions nous prêchent la perfection. C'est par la science, cet effort vers Dieu, que nous y atteindrons. La science n'a point d'aboutissement si elle n'arrive pas à faire d'une créature une créatrice. Alors seulement, nous nous mêlerons à Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mythe éternel du ternaire, que nous appelons le mystère de la Sainte Trinité. Mais c'est la vérité fulgurante, aveuglante, pour qui ne détourne point la tête, c'est tout le panthéisme. Le Créateur, la créature, le souffle qui les unit, tout est inséparable. Nous passons notre temps à recevoir la vie et à la donner. Les uns la transmettent par la chair, et nous, nous l'avons donnée par l'esprit. Non, Gabriel n'est pas un sacrilège. C'est peut-être un crime, et tu n'en mérites pour moi le bûcher, fit l'horloger en essuyant ses larmes. Toute ta philosophie ne nous rendra pas Christine. Il nous la rendra, lui, puisqu'il est innocent. À ce moment, il y eut un grand bruit dans l'escalier. Les clients anglais de Madame Muche descendaient en s'interpellant le plus gaiement du monde, avec des éclats de rire forcés, des plaisanteries, de rauques exclamations dans une langue que ni l'horloger ni Jacques ne comprenaient. Et ils parurent, traversèrent la salle basse, les yeux brillants, la face cuite par les alcools, fumant d'énormes cigares et se tenant roide comme perche, sans plier un genou en marchant, dans un équilibre trop correct et qui dénote chez ceux qui le maintiennent la conscience qu'un rien, enfin, le moindre choc, le plus petit faux geste, pourrait le leur faire perdre. La mère Muche, à laquelle on venait de payer l'addition, les suivait avec des remerciements qui n'en finissaient plus et une admiration sans borne. Oh, est-ce qu'ils peuvent supporter, ceux-là ? Fit-elle quand ils eurent disparu. Oh, je vous prie de croire qu'ils sont pas en régime sec, mes fioles sont vides. Et c'est pas l'alcool qui leur fait peur, hein, avec cela, ils perdent royalement. Ils peuvent, paraît que c'est riche à millions, c'est des lords et des sœurs que je vous dis. Paraît même qu'il y en a un qui a été roi dans l'Inde. Le plus rigolo, c'est Lord Blackfield. Paraît qu'il a été ambassadeur en Perse, celui-là. Ils n'en ont pas l'air, mais ce qu'ils ont bu. Ça me change de mon précédent pensionnaire qui buvait jamais rien. Je me demande pourquoi il voulait qu'on le serve en cabinet particulier, celui-là. De qui parlez-vous ? Demanda tout de suite Jacques Cotentin en échangeant avec l'horloger un rapide coup d'œil déjà chargé d'angoisse. Ben, d'un drôle de bonhomme qui était encore ici il y a 5 jours. Tenez, d'abord, il était muet. Ah ah ! Ce qu'il y avait dans ce ah qui sortit en même temps des lèvres de nos deux voyageurs, nous ne saurions l'exprimer. Comparons-le simplement à un soupir d'agonie. Oui, oh, un garçon qui était bien à plaindre, allez. D'abord, il était plein de tics quand on l'examinait bien. Il marchait un peu comme on danse. Il semblait toujours prêt à s'envoler. Ça n'était pas déplaisant à voir, c'était même plutôt gracieux. Il semblait avoir la légèreté d'un oiseau. Pour moi, c'était une façon qu'il avait d'être malade comme ça. On voit si souvent des ataxiques qui ont tant de mal à allonger la patte. Il semblait plutôt réprimer ses mouvements, comme s'il craignait de ne pas pouvoir s'arrêter. C'était sûrement un blessé de guerre qu'on avait dû raccommoder en partie. Les gaz, une explosion, un morceau d'obus qu'il avait amoché. Me le suis demandé. J'en ai vu passer ici des réparés depuis la Marne. Il ne devait plus pouvoir parler depuis qu'il avait eu le menton enlevé. Le menton enlevé ? Balbutia Jacques. Oh, on lui en avait remis un. Oh, et comment ? Ça avait été proprement fait, vous savez, mais tout le bas du visage ne formait plus qu'un bloc qui ne remuait guère. Avec ça, il avait des yeux magnifiques et si doux, si tristes. On aurait pleuré rien qu'en le regardant, ou bien on en serait tombé amoureux. Oh, il était beau dans son genre. On ne peut pas dire, malgré sa misère. Sa misère ? Marmotta l'horloger. Dame, on est toujours misérable quand on vous a rafistolé un autre visage, si bien que ça a pu être fait. Oh, une belle opération, je dis pas. On lui a collé une vraie figure de statue à cet homme-là. Mais quand on reste muet, n'est-ce pas, il se faisait comprendre par signes ou avec des mots décrits. Quant à être malheureux d'argent, non, certainement non. L'argent lui manquait pas et il aimait les bons morceaux, puis il buvait jamais. Il faisait entendre qu'il buvait que de l'eau, mais la carafe était toujours pleine. Il avait demandé qu'on le serve dans le cabinet particulier. Je pensais qu'il tenait pas à ce qu'on le voit à manger à cause de son menton artificiel. Il devait avoir malgré tout un solide appétit, il ne laissait rien. Bien souvent, j'ai cherché les os de poulet. Oh, c'était à croire qu'on lui avait fabriqué une mâchoire de fer à moins qu'il ait remporté les eaux pour son chien. Il a peut-être une bête chez lui pour le consoler. Et il est arrivé ici tout seul?
Oh, tout seul?
Et alors, il ne couchait pas ici?
Oh non, Rouraud, il devait avoir loué quelque chose sur le bord de la rivière, de l'autre côté des deux colombes. Pour moi, il fait vivre seul, comme un loup, dégoûté d'avoir été amoché comme ça en pleine jeunesse.
La dernière fois qu'on l'a vu ici, il n'avait pas l'air content. Je sais pas ce qui lui était arrivé, mais il n'était plus à la bonne. Ses yeux, qu'on avait vus si doux, étaient devenus méchants, méchants. Et dans le cabinet particulier, on l'entendait qu'il marchait, qu'il marchait. Oh, ce jour-là, il a même cassé la carafe. Bon, je suis entré, je lui ai demandé ce qu'il avait, car s'il était muet, il n'était pas sourd. Il m'a pas répondu. Il m'a regardé. Ses yeux étaient redevenus tristes et doux, et j'ai cru qu'il allait pleurer, mais ce n'était pas son genre. Il m'a payé ce qu'il me devait, et il est parti. Je ne l'ai jamais revu. Oh, c'était la veille du jour où l'on a découvert le cadavre de ma pauvre Mariette. Bien sûr que j'en ai parlé à la police quand elle est venue. J'ai donné les renseignements que je pouvais sur lui, comme sur tous ceux qui ont passé par ici depuis 3 semaines, 1 mois. La police l'a recherché, mais je pense pas qu'elle l'ait rejoint. Sans ça, je le saurais. Il aura quitté le pays. Quand on est comme ça, on doit se plaire nulle part.
Et comment était-il habillé? Questionna Jacques, la voix sourde.
Oh, bien comme tout le monde, en complet veston et en gros par-dessus de bourgeois, qui ne lui allait du reste pas mal du tout. Ça lui flottait dans le dos, mais il avait l'air de se ficher tout à fait de la toilette comme de tout le reste.
5 minutes plus tard, l'horloger Jacques était sur la route.
C'est lui! Gémit le vieux Norbert en s'accrochant à Jacques. Il est revenu sur le théâtre de ses crimes comme un assassin qu'il est. C'est plus fort qu'eux. Ce mort, lui, continue. Et Christine n'est plus avec lui.
Non, mais Christine est vivante, souffla Jacques.
Vivante, vivante, qu'en sais-tu?
Mais il ne venait à cette auberge que pour y chercher la nourriture qu'il lui portait, puisque la nourriture disparaissait, qu'en eût-il fait? Ça n'était pas pour lui, bien sûr.
C'est vrai, mais c'est vrai, râla l'horloger.
Mais où l'avait-il mis, Christine?
Là où elle est peut-être encore.
Le vieux Norbert comprit. Tous deux s'enfoncèrent à nouveau sous bois et redescendirent le coteau au bas duquel se dressait le pavillon funèbre, clos comme une tombe au bord de l'étang, la demeure désormais célèbre dans les annales du crime, le repère que les plus curieux n'osaient regarder que de loin, où le satyre de Corbière les eaux brûlait ses victimes après en avoir fait des morceaux dans sa cave. Un suprême espoir et une suprême terreur hâtaient leurs pas.
Chapitre 8. Ce que le vieux Norbert et Jacques Cotentin trouvèrent dans la sinistre demeure de Corbilière-les-Eaux. Ils sautèrent le mur qui par derrière entourait le petit clos envahi par les ronces desséchées et gelées, et qui n'était plus qu'un chaos depuis que la justice avait passé par là, creusant et bouleversant tout, pour retrouver ce qui pouvait rester des victimes de Bénédicte Masson. Une lueur pâle et froide accompagnait leur lugubre expédition d'un regard qui n'était rien moins qu'ami. Le vieux Norbert faillit se casser la jambe en se laissant glisser dans l'enclos. Près du hangar qui servait autrefois de bûcher, de buanderie et qui n'était plus qu'une sorte de dépotoir, Jacques tomba dans un trou où il se déchira et d'où il ne sortit qu'à grand-peine. La sinistre petite maison semblait se défendre contre l'approche de ce cambriolage
qui venait troubler la paix misérable où la peur du passant la laissait depuis que les hommes de justice étaient partis en y laissant leurs sceaux. Mais eux, rien ne les arrêtait. Comme la porte leur résistait, ils forcèrent avec une bêche l'ouverture d'un double volet, cassèrent les vitres et pénétrèrent par une fenêtre. Jacques fit jouer son briquet, trouva sur une table une bougie à demi consumée dans son bougeoir, l'alluma. Ils étaient dans la fameuse cuisine en face du fameux poêle qui devait atteindre quelques semaines plus tard aux enchères publiques à prix exorbitant. Non, il n'y avait personne dans cette affreuse demeure, mais à mains indices, ils reconnurent qu'on l'avait habité il n'y avait pas bien longtemps. Où donc aurait-il été mieux que là pour y cacher sa dernière proie? Il était bien sûr que personne ne viendrait l'y déranger. Cela avait dû être la première pensée de son cerveau au sortir du coma mortel où l'avait plongé le geste du bourreau. Quand on se réveille, on retrouve souvent la pensée sur laquelle les paupières se sont closes. Corbière ou Christine était venue si imprudemment se jeter, en quelque sorte, dans ses bras. Et rouvrant les yeux, il s'était retrouvé en face de Christine. Vite, il l'avait emportée jusqu'ici pour y achever peut-être l'œuvre de sang qu'on ne lui avait pas laissé le temps d'accomplir. Le vieux Norbert pensait avec horreur, en dépit des paroles qui voulaient être rassurantes de Jacques Cotentin, auxquelles celui-ci ne croyait peut-être pas lui-même, que telle avait dû être l'idée fixe de leur Gabriel, idée qu'il avait suivie du reste avec une astuce que tout dénonçait. Cette fuite dans la direction opposée au pays qu'il voulait atteindre, dans le dessein de dérouter toutes les poursuites, à partir de Pontoise, d'où il devait être revenu brusquement sur Paris par Pierrelaye, alors qu'on le cherchait du côté de l'Isle-Adam ou de Chartres, cette fuite était un chef-d'œuvre. Elle avait été conçue avec une lucidité qui aurait pu remplir le prosecteur d'orgueil pour son ouvrage, mais qui faisait battre le cœur du vieil horloger d'épouvante et aussi d'un ressentiment tragique à l'endroit de son neveu. Pouvait-il encore douter? Le silence et l'abandon de cette maison, après le passage de Gabriel, passage dont ils retrouvèrent les traces à chaque pas, ne témoignait-il point qu'ils arrivaient trop tard, hélas? Le vieux Norbert commençait à se heurter au mur comme un homme ivre. En vain Jacques lui criait « Mais rien ne prouve encore qu'il l'a amené ici. Rien ne nous prouve qu'elle ne lui a point échappé. » Hélas, ils reçurent bientôt le coup le plus funeste. En pénétrant au premier étage, dans la chambre qui donnait sur l'enclos, ils se heurtèrent à un désordre inimaginable. Là, tout était bouleversé par une lutte qui avait dû être atroce. Les meubles gisaient épars et près du lit, dont les couvertures avaient été arrachées, en face de la glace brisée en mille éclats, ils retrouvèrent la robe d'intérieur de Christine, sorte de peignoir d'hiver dont elle était vêtue quand le monstre l'avait emportée si brutalement, si farouchement, de la maison de l'île Saint-Louis. Cette robe n'était plus qu'une guenille tachée de sang. Le vieux Norbert la souleva dans un cri de désespoir, puis tourné vers son complice, vers son Jacques, il l'accabla de sa malédiction et redescendant comme un fou l'escalier, traversant en courant et en trébuchant cette maison maudite, il s'enfonça dans la nuit. Là-haut, Jacques continuait ses recherches. D'une table renversée, un tiroir s'était échappé, et près de ce tiroir,
gisaient des papiers qu'il ramassa, des feuillets couverts de l'écriture de Christine.